patient 98, salle C.
Hey, bonjour, docteur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là?
Apprendre à respirer par le nez et apprendre à se poser la question avant d'agir.
Ah!
Dans la salle d'attente.
Avec la docteure Christiane Laberge, médecin de famille. Bonjour, Christiane.
Bonjour.
Alors, ce matin, Christiane a prononcé une conférence à Rouyn-Noranda devant des retraités d'Hydro-Québec sur les bonnes habitudes de vie, les saines habitudes de vie. Puis je trouvais que c'était intéressant de revenir là-dessus parce que à chaque automne, comme ça, chaque changement de saison, on a envie de se rappeler quelles sont ces habitudes de vie qu'on devrait tous adopter, Christiane, parce qu'on le sait, hein, il y a eu tellement d'études qui nous prouvent, qui nous démontrent que de bonnes habitudes, les garder, ça nous assure quasiment d'une santé en tous les cas, plutôt saine pendant un grand nombre d'années, idéalement.
En tout cas, on fait ce qu'on peut.
Voilà, hein? C'est ça, c'est bien résumé.
C'est ça qui est le but de l'histoire, en fait.
Qu'est-ce que tu leur as raconté ce matin? C'est quoi, quand on parle de saines habitudes de vie, c'est quoi exactement?
Bien, en fait, on passe une journée ensemble.
Oui.
Donc, est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu snooses ou tu snooses pas? Ben, tu devrais pas snoozer. Tu devrais pas différer ton sommeil. Si tu décides de te lever à 7 heures.
Ben, snooze, ça veut dire que tu te lèves pas tout de suite.
Tu diffères.
OK.
C'est ça.
OK.
Tu diffères ton lever, puis là, tu gagnes ou tu te mets en guerre contre ton réveil matin, puis tu tapes dessus, puis tu décides de prendre un petit 15 de plus. Puis tout ça n'est pas très sain. T'es mieux de dire je me lève à 7 heures plutôt que de mettre ton réveil à 6 et quart, puis te lever à 7 heures. C'est moins fatigant. Donc, ça, c'est prouvé. Deuxièmement, le matin, tu peux avoir des raideurs. Est-ce que ces raideurs-là, ah, docteur, je fais de l'arthrite ou je fais de l'arthrose? C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi on prend notre pression artérielle le matin favorablement? Parce que tes hormones du matin sont celles qui vont te mettre en branle pour ta journée. Donc, tu vas avoir théoriquement une montée progressive de pression. Puis, on va essayer de prendre ta pression artérielle à ce moment-là. Puis, on va voir si elle est haute, basse ou si elle est correcte. Et on la reprend. Donc, on ne la prend pas compulsivement tous les jours, bien sûr.
Mais ça, tu prends ta pression si tu as des problèmes de pression.
Non. Tu peux la faire prendre, par exemple, si tu vas à la pharmacie, tu en profites quand tu vas chercher, je ne sais pas, ton papier de toilette, là, de prendre ta pression puis voir si la tendance se maintient à la normalité ou si tu es toujours avec ce que l'appareil de la pharmacie va te dire, trop haut. Ben à ce moment-là, ça fait 3-4 fois que c'est trop haut, il faut peut-être aller voir plus loin.
Les plus jeunes devraient prendre leur pression régulièrement.
Les plus jeunes, on parle à partir de l'âge de 30 ans, à peu près, là, dans la trentaine. Prendre une fois de temps en temps. Juste pour voir si la tendance se maintient. Parce que l'autre chose aussi, c'est que faut savoir que si tu es très anxieuse, si tu es très stressée tout le temps dans tout ce que tu fais dans ton quotidien, tout te stresse, ben à ce moment-là, ta pression va être légèrement plus élevée qu'elle ne devrait être, c'est-à-dire en haut de 135 et ou 85. Et à ce moment-là, si c'est répétitif, ben ça veut peut-être valoir la peine de faire quelques actions. D'abord, apprendre à respirer avant de prendre ta pression artérielle, apprendre à relaxer, avoir ton bras qui est plutôt mou avant. Donc, ça peut monter, ça peut faire une espèce de biofeedback tout de suite. Tu sais, tu prends ta pression, tu arrives juste une pinote, puis toujours pressé, tu prends ta pression, elle est trop élevée. Là, tu respires par le nez, il n'y a personne qui attend en arrière de toi, tu prends un 2 à 5 minutes, tu la reprends en faisant exprès pour être relâché, respirer, relaxé. Puis là, tu la reprends, tu vois que tu es parti de 132 à 115. Et tu dis, mon Dieu Seigneur, regarde l'impact que ça a.
Ça,
quand
c'est le
calme,
stress,
le pompon.
Ben ouais, c'est ça, ouais, exactement. D'ailleurs, une bonne pression, une pression normale, ouais. Christiane, c'est entre quoi et quoi?
Une pression normale de jeune adulte en santé, c'est en bas de 135 quand tu le prends toi-même, 135 pour le chiffre du haut, en bas de 85 pour le chiffre du bas la majorité du temps. Si tu es, par exemple, diabétique, on dit, ben là, c'est 130 sur 80 parce qu'on te serre la vis. Si tu as des conditions médicales qui sont plus importantes, on te serre la vis. Si tu as un impact au niveau de tes reins avec ton diabète, 120 sur 70. Donc, plus tu es à risque, plus on va serrer la vis.
D'accord.
Par contre, chez les personnes âgées, on peut donner un petit peu de marge de manœuvre dépendant de l'âge.
Bon. Tu parles aussi du taux de sucre élevé le matin.
Oui.
Ça, il faut contrôler ça aussi. Oui.
Bien sûr, parce que les diabétiques vont dire, « Oh mon Dieu, j'ai rien mangé pendant la nuit, puis pourtant mon sucre, c'est là qui est le plus élevé. » C'est normal, les hormones du matin vont stimuler la glycémie. Donc, si quelqu'un le matin est très beau au niveau de son sucre, ça veut dire en bas de 6, si c'est moins, on calcule que cette personne-là est correcte. Mais si la personne, même non diabétique, la belle-sœur est à côté, tu dis, « OK, donc, prends la dose. » Puis tu as genre 6,8, tu fais « t'es sur le bord en tabarouette, ça vaut la peine d'aller voir un petit peu plus loin. Donc, il y a des gens qui vont faire des petits dépistages entre eux, qui est bien correct, là. Comme je te dis, des fois, la belle-sœur, tu dis, ah, oui, donc, on est avant le dîner pour voir si mon sucre est beau ou on brunch ensemble. Puis tu passes moi le don, je vais te donner 1$ parce que ça coûte cher, ces petites affaires-là. Donc, tu lui donnes 1$, puis elle va prendre ton sucre, puis ça va te donner.
Ça, c'est avec la petite piqûre dans le doigt, là. Comme, c'est
ouais,
ça?
Tout ouais. à fait.
Ouais, comme les diabétiques. Ouais, là. Mais t'es pas obligé. Ce que tu nous dis, c'est que même quelqu'un, là, on est dans la catégorie bonnes habitudes de vie, donc tout le monde devrait, de temps en temps, surveiller son taux de sucre.
Oui, puis on peut faire ça facilement avec quelqu'un qu'on connaît, ou bien on peut demander aux pharmaciens. Souvent, les pharmaciens vont avoir un système avec une infirmière, puis tu peux faire prendre ton sucre juste pour voir. Puis surtout, si, par exemple, tu me dis, ben j'ai 40 ans, puis... ma mère, mon père faisait du diabète, puis j'ai pas de famille, puis blablabla. Ouais. À ce moment-là, si tu prends ton sucre à jeun le matin ou avant le repas le midi, ouais. ça nous donne déjà une petite idée.
Et à jeun, on doit être très, à très combien? C'est, comment ça se mesure, le taux de sucre?
À jeun, c'est en bas, un sucre normal, là, c'est en bas de 5,9.
En bas de 5,9.
Donc, ça, c'est normal. Okay. Entre 6 et 6,9, c'est attention à risque. Donc, tu as déjà une tendance à tolérer que ton insuline ne fonctionne pas comme elle devrait. Mmh. Puis 7, c'est notre chiffre magique pour dire que tu es probablement diabétique. Mais c'est évident qu'on va te faire faire d'autres tests. Il y a un test qu'on fait qui s'appelle l'hémoglobine glyquée. Ça, c'est le médecin qui te prescrit ça. Mmh. Ou l'infirmière, l'IPS. Mais ça va nous donner le reflet de toi au niveau de ton sucre pour les 3 derniers mois.
OK, d'accord.
Donc, il y a des gens qui font leur fin, puis qui prennent plus de médicaments. Puis on sait qu'il y en a qui nous jouent des tours. Puis ils sont bien beaux quand ils viennent le matin. Regarde mon sucre, s'il est beau. Mais quand on regarde 3 mois en arrière, c'est pas leur moyenne qui était belle.
Fait que ça, c'est une bonne façon d'être un peu... parce que l'idée d'adopter des saines habitudes de vie, c'est d'éviter justement de faire la queue à l'hôpital.
Absolument.
Parce qu'on n'a pas de médecin de famille. C'est d'être au courant soi-même de son corps, de comment ça fonctionne, de connaître ces principes-là de taux de sucre, de pression élevée ou non, de connaître aussi les barèmes, hein, parce qu'on n'a pas fait 5 ans de médecine. Donc, c'est important d'avoir ces données-là. Ensuite, on revient aux habitudes de base. On nous dit depuis des années, ad nauseam, puis les gens sont un peu fatigués de l'entendre, mais mangez bien, dormez bien, faites de l'exercice.
Ça reste toujours.
Aujourd'hui, là, par exemple, les gens qui nous écoutent en ce moment, là, ce matin, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ce matin, par exemple, au petit déjeuner? Moi, je ne sais jamais quoi manger au petit déjeuner. Le midi, l'alimentation, c'est quand même majeur dans les saines habitudes de vie.
Je te dirais que dans les saines habitudes de vie, moi, en tout cas, le message que j'aime à passer aux gens, c'est comment êtes-vous?
Ouais.
Quel genre de personne êtes-vous? Il y a des gens qui se lèvent le matin et la première idée qu'ils ont, c'est d'aller manger parce qu'ils ont faim le matin.
Ouais, c'est ça.
Le midi, ils ont moins faim. Ou c'est des gens, par exemple, la structure de personnes qui n'a jamais faim le matin avant 10 heures. Tu as la personne qui mange tout le temps aux 2h30, mais des petites portions. Mm-hmm. Est-ce que je vais traiter de la même façon ces 3 personnes-là? La réponse, c'est non. Je vais la traiter en fonction de ce qu'elle est, elle, et ce qui lui convient bien. Il y a des instincts dans la vie qui vont faire que t'es comme ça, et quand je vais contrarier ton instinct, ça ne marchera pas bien. Donc, c'est clair que si, par exemple, quelqu'un le matin se lève puis a faim dans l'heure qui suit, bien, on va lui donner d'habitude, comme déjeuner, une portion de protéines.
Mm-hmm.
Donc, ça peut être, on va donner des céréales à grains entiers, donc ça peut être sous forme de pain de blé de grains entiers. Mais actuellement, ce qu'on essaie de combattre, la grande réaction cétogène, là, c'est l'espèce de balancier complètement d'un bord. Ce que ça veut, c'est combattre l'hypersucre qu'on a dans notre société. Okay? Mmh. Quand tu regardes, par exemple, certains pains américains, quand tu vas aux États-Unis, puis tu regardes le pain blanc avec les étiquettes, tu peux avoir jusqu'à 8 grammes de sucre, donc une cuillère à thé, 3/4 à peu près, par tranche de pain. Est-ce que c'est nécessaire?
Non,
la réponse,
incroyable.
C'est non. Mm-hmm, mm-hmm. Alors que quand tu prends, je ne veux pas faire de pub, mais un pain sans méthode, ton sucre que tu as dedans, c'est ton sucre naturel de pour faire lever ton pain. Tu as besoin quand même d'une petite quantité. Mais tu regardes ça, et en grammes de glucides, tu n'en as pas beaucoup. Donc, tu peux faire attention. Il y a encore des gens aujourd'hui, tu sais, si tu prends quelqu'un qui prend une belle grosse tranche de pain blanc sucré avec de la confiture le matin, c'est sûr qu'il est plein de sucre. Mais si la personne prend un pain de grain entier avec du beurre d'arachide ou avec du fromage, à ce moment-là, cette personne-là, elle a presque pas de sucre, puis elle a des protéines.
Ouais.
Elle va prendre un bon fruit. Tu prends un jus de fruit, tu montes ta glycémie rapidement parce que ça s'absorbe en 5 minutes. D'ailleurs, tu sais que les gens qui font de l'hypoglycémie parce qu'ils ont pris trop d'insuline ou parce que leur médicament leur a donné un effet secondaire d'hypoglycémie, ils vont prendre un jus d'orange dans les 5 minutes, ils sont montés.
Oui, c'est ça.
Alors que si tu prends ton orange, bien ton orange avec la pulpe et avec tout ce qu'il y a dedans va permettre une augmentation de ta glycémie de quelques milligrammes par, disons, demi-heure, heure, plutôt que de te donner d'un coup dans les 5 minutes ton augmentation. Donc, c'est pour ça que tu vas avoir en même temps les fibres qui vont aider les selles, qui vont aider ton système à vidanger le reste. Donc, tu as des avantages à prendre quelque chose avec des fibres le matin, quelque chose avec des protéines et quelque chose avec des antioxydants qui sont souvent dans les fruits, dans les légumes.
Mm-hmm. Les œufs, tout ça, qu'est-ce que tu en penses, toi, tout ça?
Les œufs, 4 par semaine, mm-hmm. ça, c'est ce qui est reconnu comme en santé, 7 chez les végétariens. Donc, les œufs, il n'y a pas de problème. C'est clair que si tu mets ça dans un demi-pouce de beurre.
Avec de la graisse, puis du bacon, puis des toasts beurrés des deux côtés, c'est sûr que...
Exactement. Ouais. Fait que si tu prends ça avec... simplement, tu fais un œuf poché ou tu fais un œuf comme thème. Tu sais, maintenant, avec les antiadhésifs, là, tu peux mettre juste une petite goutte de glissant, là, tu sais, puis c'est quand même très bon. Tu sais.
Ouais.
C'est que tu peux t'organiser pour avoir quelque chose qui corresponde à tes goûts,
ouais.
mais qui soit bon pour toi. Le principe, c'est que ça soit bon. On est des omnivores.
Ouais.
On mange de tout. Donc, de varier. C'est ça qui est intéressant.
Oui, puis manger quand même le plus frais possible. On va s'arrêter ici. Docteur Christiane Laberge est avec nous. On discute des saines habitudes de vie à adopter. On va prendre vos questions tout de suite après la pause. 514-790-9850. Sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. C'est la chronique dans la salle d'attente avec la docteure Christiane Laberge, qui est médecin de famille. On parle des saines habitudes de vie à adopter. Marc est camionneur, il nous écoute, puis il se dit, bon, comment je pourrais faire pour améliorer les miennes, n'est-ce pas, Marc? Bonjour.
Effectivement, mademoiselle. Bonjour.
Bonjour.
Avez-vous une question, bon. Marc?
Ben non, c'est plus un commentaire que je disais à votre...
Oui, allez-y.
Au monsieur, c'est que mon médecin m'a déjà dit un jour qu'on est le seul mammifère sur la planète Terre qui fonctionne avec des heures. On se lève, mettons, à 7 heures, on déjeune. On fait pas comme notre système, tu sais, comme les animaux le font. Ils mangent quand ils ont faim, ils vont dormir quand ils ont faim, ils font ce qu'ils ont à faire quand ils en ont besoin.
Mm-hmm.
Nous, on est l'être humain, malheureusement, ou peut-être heureusement, je ne sais pas, on est dicté par...
Par le travail, c'est le travail, c'est
travail,
le cadre.
Ouais,
ben oui.
Ben oui. Mm-hmm. Ben oui. Ben oui.
Une conscience collective de ce qu'on nous a enseigné quand on était plus jeune, etc. T'sais.
Mais vous, comme camionneur, Marc, dites-moi donc, comme par exemple ce matin ou aujourd'hui ou ce midi, là, vous allez manger quoi? Là? C'est pas facile, vous êtes dans votre camion, ça c'est du sandwich, vous arrêtez quelque part sur la route, c'est ça?
Non, ça va être un macaroni chinois qu'on a préparé à la maison. La seule problématique, c'est pas de manger seulement, c'est quand est-ce qu'on le mange en tant que camionneur?
C'est ça.
On a le droit de conduire 13 heures sur la route. On n'arrête pas tout le temps pour manger. On veut se rendre le plus rapidement possible parce qu'on est payé au kilométrage, au millage. Fait qu'on veut faire plus de kilomètres dans notre journée. Fait que là, on va manger à la fin de notre période de travail. Puis notre période de travail se décale de journée en journée.
C'est ça. Donc, vous voulez des petits trucs pour essayer de voir comment... s'arrêter, j'imagine que Christiane va vous dire qu'il faut absolument prendre le temps de s'arrêter, même qu'on soit chauffeur de camion, enseignant, infirmière, gestionnaire, il faut prendre le temps de manger, n'est-ce pas, Christiane?
Ben, c'est pas pour rien que les syndicats se battent pour avoir des temps de pause, parce qu'il faut à un moment donné décrocher. L'autre chose, c'est qu'un bon moyen pour décrocher, c'est de boire notre 6 verres d'eau par jour, parce que tu es obligé d'arrêter pour aller faire pipi, tu sais. Fait que déjà là, ça va te conditionner à être obligé d'arrêter. Il y a des gens qui, par exemple, quand ils font de la longue route, ce qu'on suggère médicalement, c'est qu'on suggère d'arrêter à peu près entre 2 et 3 heures de conduite, faire le tour du camion ou de la voiture pour éviter les phlébites, pour éviter les problèmes vasculaires et pour faire un petit peu d'exercice pour éviter d'être ankylosé aussi. Mm-hmm. Et on en profite pour diminuer. En fait, si on répartit nos aliments sur 12 heures ou sur 16 heures, à ce moment-là, on va collationner, mais par exemple, un demi-sandwich avec une tomate et puis une pomme, puis après ça, 3 heures plus tard, une autre protéine avec... Donc, on mélange comme ça pour avoir aussi le transit intestinal qui se fasse. Donc, nos 6 verres d'eau répartis dans la journée, en même temps, un petit peu d'activité. Et savais-tu qu'il y a des programmes d'exercice spécifiques pour que les camionneurs s'exercent avec leur camion? Avec les marchepieds, avec les barres pour descendre, si ce sont des camionneurs qui n'ont pas à décharger eux-mêmes leur matériel. Mais s'ils font pas d'exercice, là, Il y a des programmes d'exercice spécifiques pour jouer avec ton camion.
Ah, ben c'est intéressant. On a justement Claude, qui est un prof d'éducation physique, qui va sans doute nous rappeler les bienfaits de l'exercice, n'est-ce pas, Claude?
Hey, Madame Isabelle, c'est moi qui vous appelais ma femme à couille. Et puis,
ah oui, c'est vous. Salut, comment ça va?
Ça va bien, puis Madame, le docteur Laberge, j'ai toujours écouté vos commentaires, ou pratiquement toujours. Vous êtes ma médecin terre à terre. J'aime vos commentaires. Mais j'aimerais beaucoup compléter rapidement. J'aurais beaucoup de choses à dire. J'ai une compagnie de conditionnement depuis 40 ans. Mm-hmm. Ça fait de l'exercice depuis 40 ans. Puis, ce que je déplore au niveau médical, tantôt j'écoutais le Dr Laberge, mais j'ai rarement vu un médecin prescrire un programme de conditionnement pour quelqu'un qui se présente devant lui. Moi, j'axe beaucoup sur la prévention, ouais, et non la guérison. Prévenir, ouais, au lieu de guérir. Puis, dans les paramètres importants, Dr Laberge puis Mme Isabelle, il y en a 5 paramètres importants, puis il y en a 2 qui sont pas traités, pour les deux, en tout cas, c'est très peu traités. C'est qu'on en parle, mais on sait pas quoi faire. Mm-hmm. Vous avez parlé tantôt d'exercice, vous avez parlé de bien manger, bien dormir, puis le nasal, je suis tellement d'accord, pas se réveiller avec un bruit, puis faire un saut de 14 pieds. Mais il y a 2 paramètres, Mme Isabelle puis Mme Laberge, maîtrise du stress et gérance des émotions. Mm-hmm. On n'en parle pas de ça. Ouais. Puis actuellement, les filles, les adolescentes, 12, 13, 14, 15 ans sur ces antidépresseurs, ouais, ça n'a pas de tic d'allure. Puis les enfants, m'a donné un exemple, vous allez tout comprendre. L'enfant du primaire qui est dans sa chambre avec son téléphone, puis qui attend son père puis sa mère se bousculer ou s'engueuler le soir, puis qui s'en va à l'école le matin, puis qu'il y a une chose en tête, c'est que ton père ou sa mère m'en tape sa gueule. Mm. Je veux dire, à qui il va se confier? À qui il va se confier? Le professeur va arriver devant l'élève, il va dire, pourquoi, Pierrot, tu comprends pas ce que je viens de t'expliquer? Il a pas la tête, là. Il est plein d'émotions, il a peur. Ouais. Puis même, Dr Laberge, tu es d'accord avec moi que manger ses émotions, ça fait engraisser. Vous savez, ouais, ça? Ça, mmh, fait engraisser.
Et merci, dormir.
Merci, Claude, de nous rappeler ça en cette journée. C'est quand même la journée mondiale de la prévention du suicide. Ouais. Ça me permet de, ouais, vous le rappeler. Et quand on parle effectivement, le stress, les émotions. Christiane, tu le disais tout à l'heure un peu aussi, tu parlais du stress en parlant. Tu sais, on pourrait parler longuement du cortisol aussi, cette
ouais,
espèce d'hormone.
Tout à fait.
Et
ouais,
qui a un impact négatif, hein, quand on en a trop.
Pour répondre à notre invité,
ouais,
je vous avise que la FMOQ, la Fédération des médecins en praticien, nous a envoyé des tablettes de prescription en association avec le mouvement Pierre Lavoie.
Oui, Pierre Lavoie.
Pour prescrire 15 minutes d'exercice à nos patients.
Est-ce qu'ils le font, les médecins, Christiane? Allô? Est-ce que j'ai perdu la Doc Laberge?
Et comme quand on fait une prescription ordinaire, on s'entend que tu n'apportes pas ça à la pharmacie pour demander au pharmacien, donne-moi 15 minutes d'exercice. Mais c'est fait vraiment pour inciter la personne à se rappeler. C'est une prescription formelle, comme pour celle des médicaments.
Ouais. Je te demandais, est-ce que ouais, les médecins, est-ce que tes collègues le prescrivent? Est-ce qu'on s'est utilisé de plus en plus?
On a utilisé ces pads-là, là, ces paquets de prescriptions-là. Je ne sais pas si tous ont terminé ce qu'on a reçu, mais au même titre qu'on a des prescriptions muséales, mm-hmm, hein, que tu mm-hmm sais, avec le Musée des beaux-arts de Montréal et l'Association des médecins de langue française du Canada. Et on a reçu ça, c'était une prescription pour une famille, papa, maman et 2 enfants.
D'aller au musée.
Pour aller au musée. Parce que quand tu as une mauvaise nouvelle, ça prend des occasions pour aller renforcer la famille, pour aller parler d'autres choses, pour aller raisonner avec d'autres choses.
Puis dans ce temps-là,
avoir un bon moment. Et on donne la prescription et les gens vont au Musée des beaux-arts à Montréal et c'est gratuit pour eux.
Et donc, c'est gratuit. Puis même, puis si c'était payant, ils pourraient se faire rembourser par leur assurance. Est-ce que ça irait jusque-là?
Non, c'est une prescription une fois, mais c'est une, ouais, occasion familiale. L'autre chose, c'est qu'au niveau de l'enfant qui a des difficultés, ouais, il y a en général toujours des TES à l'école, des techniciennes en éducation spécialisée. Il y a à peu près toujours des travailleurs sociaux attachés à l'école et l'enfant peut le dire au professeur, ouais, « Moi, je suis très inquiet parce que j'entends crier chez nous et j'ai de la difficulté à dormir. » Et on sait que l'insomnie est aussi un facteur de risque au niveau de la dépression, mais la dépression va aussi donner de l'insomnie. Donc, et c'est un facteur qui va augmenter l'obésité, qui va augmenter l'hypertension et les infarctus.
C'est sûr. On a Samia, ouais, avec nous. Bonjour, Samia.
Bonjour à vous deux.
Vous êtes
moi, je me suis suis fait opérer il n'y a pas longtemps, puis le docteur, ma chirurgienne, m'avait dit qu'il fallait que je passe des prises de sang avant la chirurgie. J'ai passé des prises de sang, puis elle me dit que je fais de l'anémie et que là, je viens de savoir que je fais encore de l'anémie, parce que supposément que j'en faisais quand j'étais jeune aussi à cause de ma maladie. Moi, je voulais savoir, mettons une journée que j'oublie de prendre mon médicament, parce que moi, j'ai pas de médecin de famille, fait que je sais pas si m'en avoir d'autres médicaments de faire. Hein. Mm-hmm. Mais je voulais savoir comment, c'est quoi les symptômes que je peux voir que mon taux de globules rouges est trop bas.
Bien, habituellement, ça donne de la fatigue. Quand c'est très, très bas, ça donne de la fatigue, bien sûr, qui est augmentée. Ça donne de la pâleur. Les gens vous disent, vous êtes pâle, vous allez facilement avoir de la sueur. Vous allez être essoufflé quand vous allez monter l'escalier. Donc, anormalement. Par contre, vous, si vous avez une maladie chronique, vous devriez déjà avoir un médecin de famille antérieurement, à moins qu'il ait pris sa retraite. Mais vous devriez avoir eu un médecin de famille ou un hématologue dépendant de votre maladie de base, si c'est une maladie de sang, et vous devriez être suivi. Par contre, il y a des gens qui ont des maladies chroniques du sang qui, eux, ont tellement descendu lentement leur hémoglobine, le fer dans le sang, qu'ils s'en rendent presque pas compte et c'est presque les laboratoires qui nous disent « là, t'es vraiment en bas de ta coche ouais. ». Donc, je pense que ça mériterait de rencontrer le spécialiste et de voir à votre situation personnelle, mais le fer, si ça a été indiqué, puis que c'est encore, ça demande quand même un diagnostic médical pour reconduire le fer, parce qu'on donne pas ça à tout le monde. T'es fatigué, je te donne du fer. Parce que le fer, si t'en as trop, c'est toxique.
Oui, c'est ça, il faut faire attention. Ben, ouais. Et justement, Christiane, ouais. on va terminer là, sur les saines habitudes de vie, parce que je voulais t'amener à nous dire sur... bon, on dit souvent qu'il faut rajouter des choses pour avoir des bonnes habitudes de vie. Tu rajoutes de l'exercice, tu rajoutes des légumes, mais on peut aussi enlever certaines choses. On vient de parler du fer. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai peur d'être anémique, justement, si je coupe la viande rouge, par exemple, qui est une tendance. Est-ce qu'effectivement, on doit s'inquiéter de ça ou on n'est pas obligé d'en manger de la viande rouge, là?
On n'est pas obligé de manger de la viande rouge. Souvent, on va être capable d'en ramasser assez. Sauf qu'il y a des gens qui ont des besoins plus grands que les autres. Ouais, il y a des gens qui ont des besoins plus grands que les autres. Moi, j'ai une madame qui dit, moi, j'essaie d'être végétarienne, mais au bout de 2 semaines, sans manger de viande, je me sens fièvre, je me sens pas bien. Mais dans ce temps-là, tu dis, mange une fois par semaine une petite quantité. Puis comme ça, toi, ça va correspondre à tes besoins. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont avoir, par exemple, les femmes qui vont avoir des menstruations très abondantes. Ben c'est clair qu'elles vont avoir besoin de suppléer beaucoup plus facilement avec plus de fer absorbable rapidement que d'autres. Alors, ça dépend de comment tu es. En général, les gens qui sont végétaliens, il faut qu'ils voient à leur B12 parce que leur alimentation de base n'est pas adéquate là-dedans. Fait qu'il faut qu'ils prennent des produits particuliers pour augmenter la B12. Les gens qui sont strictement végétarien, ça dépend. Il y a des végétariens qui sont appelés, mais peu d'élus. Hein? Les gens, ils font ça un peu. « Ah, moi, j'ai tout coupé, sauf les légumes. » Ben, t'as pas ce qu'il faut si t'as tout coupé, sauf les légumes. Alors, il faut faire attention. Ouais. Et l'autre chose, c'est que moi, j'ai dit ça quand on dit, tu sais, le diabétique arrive, il dit « Bon, ben là, je vais tout couper le sucre, puis je vais tout... » Non, regarde, tu vas augmenter les légumes, tu vas augmenter les fibres, tu vas augmenter l'exercice. J'ai ça quand tu te mets dans la punition de couper.
Faut pas être radical, en fait. Il faut être équilibré.
Absolument, puis il faut faire essai-erreur. Si tu commences à manger que des légumineuses demain matin, j'ai hâte de te voir le ballonnement que tu vas avoir.
Ouais, c'est ça.
Sans compter les odeurs qui vont t'entourer.
Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup, docteur Christiane Laberge, médecin de famille. C'était notre chronique dans la salle d'attente. On aura un autre sujet la semaine prochaine. Merci à tout le monde qui a posé des questions. Vous restez là, vous bougez pas parce que c'est l'entrevue sans filtre tout de suite après. Et je reçois une chanteuse que vous aimez, la chanteuse country, Guylaine Tanguay. Restez là, tout le monde.